Dans l'imaginaire collectif, l'ascension du Mont Everest représente certainement l'une des façons les plus époustouflantes de repousser ses propres limites. Des aventuriers de tout horizon s'attaquent aux gigantesques défis, mais les personnes avec une amputation ou une déficience visuelle n'auront plus le droit de le faire à la suite d'une nouvelle réglementation. Est-ce éthique de refuser à des personnes handicapées de se lancer dans le défi? On y réfléchit dans un instant au Signal. Kevin Breton au micro, très heureux de vous retrouver. J'entends chacune de mes émissions en vous disant à quel point je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi, puis à quel point je suis heureux d'accueillir, soit au bout du fil ou en studio, nos différents invités qui se sont succédés. Donc, c'est pas une surprise si je commence cette émission-là de la même manière, mais c'est quand même particulier parce que, bon, je suis heureux de recevoir toutes les personnes en studio, mais aujourd'hui, c'est très particulier parce que c'est un de mes bons amis et c'est des retrouvailles en temps réel qui se passent parce que ça fait 4 ans qu'on s'était pas vu. Alexandre Bilodeau des Biens. Bonjour, Alex.
Salut, Kevin.
On va comprendre que vous allez nous pardonner le fait qu'on ne va pas se vouvoyer. On va se tutoyer aujourd'hui à l'émission. Si je t'ai invité, Alex, effectivement, c'est parce que ça tombait bien. Tu revenais d'un voyage de 4 ans. Puis toi, t'es passionné d'escalade.
Oui, exactement.
Et t'as même escaladé, je parlais du Mont Everest en introduction, mais t'as escaladé non pas le Mont Everest, mais d'autres grandes montagnes.
Oui, ben escalade, randonnée, trek, alpinisme. Donc je suis allé au camp de base de l'Everest, mais sur mon parcours, là, j'ai quand même monté plusieurs sommets au-dessus de 5000 et un au-dessus de 6000 mètres.
C'est quoi la différence? Parce que je t'entendais me différencier trek, escalade, randonnée. Est-ce qu'il y a une terminologie précise à savoir pour les différencier ou...
L'escalade, ce serait surtout avec les mains, souvent avec les mains, les pieds, là, des chaussons d'escalade, une corde, donc monter une paroi. Puis le trek, randonnée, grosso modo, c'est des synonymes. Okay. Le trek, souvent, va juste être utilisé pour plus long. Donc moi, j'avais fait un trek, par exemple, dans les Himalayas de 26 jours, tout seul. Donc ça, c'est plus une grande randonnée ou un trek.
Également gravi le Kilimanjaro. En fait, dans le fond, la différence, c'est souvent si c'est plus en latitude avec des blocs de glace à escalader ou si c'est plutôt des sentiers à parcourir.
C'est ça. L'escalade, c'est. Il peut y avoir l'escalade de glace, il peut y avoir l'escalade de roche. La randonnée, on utilise normalement seulement nos pieds.
On va pouvoir en parler plus amplement de l'escalade et de randonnée, mais j'aimerais quand même que tu me parles un peu de ton voyage, parce que là, tu reviens tout juste de 4 ans. Nous, on s'était laissé en France en 2013, je pense, c'est en novembre 2013. Oui. Moi, je suis revenu au Québec, puis toi, tu as décidé de parcourir tout le monde. Tu as traversé la Sibérie, tu as enseigné en Chine. Qu'est-ce qui t'a motivé pendant 4 ans à être à l'étranger?
Moi, c'est quelque chose, j'étais très curieux par rapport au monde, puis par rapport à voyager, puis vraiment, en voyageant, c'est devenu une passion qui s'est jamais éteinte, encore aujourd'hui. Donc, partout où j'allais, j'étais juste toujours plus curieux d'aller voir plus creux, un peu plus loin, puis j'ai jamais eu, en fait, de bonne raison de revenir ou d'arrêter.
Puis là, c'est quoi ta raison de revenir?
ma raison de revenir, en fait, tu le sais pas encore, mais c'est un emploi que j'ai eu. Grosso modo, je vais être payé pour voyager.
Fait que donc, c'est juste un arrêt stop, puis on repart, là.
Exactement.
Parce que toi, bravo, Alex, le voyage puis la découverte de l'autre, c'est quelque chose qui est ancré profondément en toi. Pour toi, qu'est-ce que le voyage peut apporter à l'être humain? Je sais que c'est une grande question, puis qu'en 2-3 phrases, c'est difficile à résumer. D'ailleurs, tu as même un blog où tu étends tes réflexions. Je me rappelle plus l'adresse, là, c'est...
poetesansfrontières.com.
Donc, toutes tes réflexions s'y trouvent, mais si tu veux nous donner un petit aperçu en 2-3 lignes de qu'est-ce que le voyage peut apporter à l'humain?
Moi, j'ai appris beaucoup à rencontrer les gens. C'était rencontrer la bonté des gens. Donc ça, c'est probablement un des trucs qui m'a frappé le plus en voyage. Désapprendre toute la méfiance qu'on apprend par rapport aux inconnus, aux autres cultures. Donc juste pour ça, c'est quelque chose de fantastique.
C'est une question que j'aime bien poser aux grands voyageurs puis aux globetrotteurs qui passent à l'émission, que ce soit Aime la vie ou encore au Signal. Mais si tu devais recommander une destination à une personne qui ne voit pas, pour la faire voyager, ce serait quel pays ou quelle ville?
Je dirais probablement l'Italie. Puis là, il y aurait beaucoup de villes,
ouais.
Que ce soit Florence, Rome, Naples, peu importe. Mais l'Italie est un pays qui se goûte par les sens.
Ouais.
Puis c'est vraiment un très beau pays.
Pour les ça. Saveurs. La même question pour moi, pour une personne en fauteuil roulant, disons.
En fauteuil roulant, moi, je dirais Pékin. J'ai ouais. vécu un petit moment à Pékin, puis la Chine, c'est un pays qui se modernise à vitesse grand V, mm-hmm. puis Pékin est une magnifique ville, il y a beaucoup de culture, puis pour visiter Pékin.
Pékin, je le mets sur ma liste, effectivement, puis tu veux dire qu'ils ont reçu les Jeux olympiques de 2008 aussi, souvent ça aide à accessibiliser une ville ou à mettre en accessibilité une ville. Ouais. T'as appris un tas de trucs pendant tes 4 ans à l'étranger, Alex. T'as notamment appris un peu sur le tas, l'escalade, puis ça, moi je te connaissais déjà un peu avant, je savais que t'étais un grand sportif, mais ta technique d'escalade, tu l'as peaufinée sur le tas lorsque tu t'es rendu à Island Peak. Raconte-moi comment ça s'est passé, c'est quoi cette montagne-là, puis comment ça s'est passé pour toi là-bas?
Juste pour être sûr, là, on parle d'alpinisme.
C'est l'alpinisme, donc, ouais, OK. L'escalade, t'étais déjà initié.
J'étais déjà initié. Je me suis un peu initié de la façon dont tu parles, donc sur le tas aussi, même mm-hmm. chose, un peu avec des vidéos YouTube, puis c'est ça. Côté alpinisme, l'Island Peak dans les Himalayas, c'est la première montagne que j'ai fait en alpinisme. Et puis, j'avais pas de formation pour faire ça. Avant, donc, j'ai choisi une montagne qui était dans sa catégorie vraiment une des plus faciles, une des plus simples. Et puis, je me suis assuré d'avoir toute la préparation possible, de me prendre un bon guide. Puis, je suis allé, puis ça a donné un assez bon résultat.
On la connaît pas bien, Island Peak. Est-ce que tu sais c'est à quelle hauteur comparativement à l'Everest, par exemple?
Le Island Peak, c'est 6190 mètres environ. Ce qui est exactement la hauteur du Denali, le plus haut mont d'Amérique du Nord.
OK.
Mais le mont Everest, là, on parle de 8850 environ. Donc.
Puis toi, tu as appris l'alpinisme comme ça, à tâtons, puis ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu as craint pour ta vie? Est-ce que c'est vraiment périlleux comme entreprise? Ou?
Dans l'alpinisme, non. J'avais bien fait mes devoirs. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas trop technique pour commencer. Si je voulais aller plus loin, là, maintenant, je sais qu'est-ce que ça me prendrait pour faire plus. J'aurais besoin de formation, d'en apprendre plus. C'est sûr qu'il y a des moments en randonnée, pas besoin d'avoir un pic à glace ou d'être à 6000 mètres pour craindre pour ma vie.
Ouais.
Avec la haute altitude, c'est déjà arrivé, surtout parce que je trek souvent seul. Mais
parce que c'est ça le plus grand danger, en fait. C'est pas nécessairement de chuter... des blessures causées avec des chutes, mais c'est vraiment des problèmes de santé reliés à l'oxygénisation du cerveau qui
ouais.
est le plus dangereux.
Oui, exactement. C'est vraiment, il faut être bien acclimaté parce que plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène dans l'air. Puis notre corps n'est pas habitué à ça, donc on peut faire une embolie pulmonaire ou au cerveau. Puis ça peut être fatal très, très rapidement. Puis il n'y a pas grand-chose qui prévient contre ça. À part une bonne acclimatation.
Uh-huh.
Donc, même si on est un athlète qui fait des marathons, ça ne veut pas dire que tu peux aller en haute altitude et que tu n'auras pas de problème.
Tu me parlais en pré-entrevue. Dans le fond, l'important, c'est d'y aller étape par étape et de prendre des journées de repos. C'est la clé pour arriver au sommet avec toute sa tête.
Oui, exactement.
Prendre des journées de repos. Ben, ça met très bien la table à la deuxième partie de l'émission où on va pouvoir parler justement des dangers qui guettent les alpinistes puis les aventuriers qui s'attaquent au plus haut mont. On va utiliser ton expérience sur les montagnes pour discuter de cette question un peu philosophique ensemble dans un instant au Signal. Toujours Kevin Breton, toujours avec mon bon ami Alexandre qui a accepté généreusement de venir nous parler de son expérience comme randonneur dans les plus hautes montagnes et aussi faire profiter ta sagesse, Alexandre, parce que t'es un grand sage, t'es diplômé en philosophie. C'est là qu'on s'est connus, en fait. Les deux, on étudie ensemble à l'Université de Sherbrooke. L'article dont j'ai fait mention en début d'émission, moi, c'est ce qui m'a fait tout de suite dire « OK, il faut vraiment que je m'attaque à ce dossier-là. C'est un aspect du sport adapté. Comment, par quel morceau je le prends? » Puis effectivement, je me suis dit « c'est une question philosophique, c'est une question éthique d'interdire à des personnes amputées de réaliser des grands accomplissements sportifs ou non. Donc, tu me semblais être la personne toute désignée pour venir en jaser avec moi. Toi, tu as lu l'article qu'on retrouve sur le site de Guardian, qu'on va également mettre sur notre site internet visevoix.com. C'est sorti pendant les fêtes. Toi, ça a été quoi ta première réaction quand je t'ai envoyé l'article, Alex?
Moi, ma première réaction en voyant ça, là, donc c'est des gens qui ont des doubles amputations ou qui sont aveugles à 100%, qui maintenant n'auront plus le droit d'avoir le permis pour aller sur l'Everest. Moi, je me suis demandé combien de gens dans cette situation-là l'ont essayé et quel a été le résultat. Est-ce que dans le fond, il y a de la matière à créer une loi comme ça?
Puis effectivement, les chiffres qu'on a, parce que le site en donnait quelques-uns, c'était quoi? C'était 26 personnes qui l'avaient essayé dans les dernières années ou 29 personnes avec ces limitations-là qui n'auront plus le droit de se qualifier pour obtenir un permis d'escalade. Puis parmi eux, il y en avait 6 qui sont décédés. Ça peut paraître beaucoup, mais en fin de compte, quand on regarde au prorata, il y a beaucoup de gens, handicap ou pas, qui meurent lors de cette expédition-là.
Oui, il y a quand même énormément de gens là, qui meurent en montant, en fait, en descendant de l'Everest. C'est souvent ce qui arrive, c'est beaucoup plus en descendant. Puis oui, le pourcentage, si on regarde en pourcentage là, de tous les temps qui étaient enregistrés, c'est ça, je crois que c'est vingtaine ou trentaine de gens en situation de handicap qui l'ont essayé. Et puis, donc, c'est vraiment minime. Et puis, en pourcentage, il y en a un peu plus qui sont décédés. Mais vraiment pas beaucoup. Tu parlais de 6, là, c'est autour de ça.
Mais c'est sûr que, tu sais, des grands accomplissements. Tu sais, l'être humain est fait pour dépasser ses limites toujours, puis ça inclut les personnes handicapées qui ne sont pas exclues que ça. On peut penser à des grands exploits, comme par exemple Philippe Croizon en France, qui, lui, est amputé des bras, des jambes, a traversé la Manche entre l'Angleterre et la France. Il y a des exploits comme ça qui se sont produits, puis on n'a pas empêché les personnes handicapées parce qu'on craignait pour leur sécurité de le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir, on met la ligne où, quand est-ce qu'on doit laisser ces personnes-là dépasser leurs limites, puis quand est-ce qu'on décide que ça peut représenter un danger pour eux? C'est là la question philosophique, n'est-ce pas?
Oui, éthiquement, c'est ça, c'est de dire, de mettre des barrières aux gens, c'est de dire pourquoi on le fait. Comme tu l'as mentionné, une des raisons, ça peut être pour leur propre sécurité. Ça se fait pas nécessairement ailleurs. Puis comme on l'a vu, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Là. Il n'y a pas encore assez, c'est pas assez prouvé que ces gens-là sont beaucoup plus à risque. Ensuite, ce serait de voir, est-ce que ces gens-là, moi ça a été un peu mon réflexe de me dire, est-ce que ces gens-là mettent plus à risque leur équipe? Leur guide, les gens qui sont avec eux, parce que c'est toute une expédition faire l'Everest. Mais encore là, si on regarde ce qui a déjà été fait dans les 30-40 dernières années, il n'y a pas matière à penser que vraiment les gens mettent plus à risque leur équipe.
Mais je suis content de t'entendre le dire parce que toi, tu as passé à travers des montagnes semblables. Puis à mes yeux ou aux yeux de monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais fait de l'alpinisme ou de l'escalade, dire ben oui, effectivement, une personne qui voit pas peut pas escalader un bloc de glace, ou une personne qui a des prothèses à la place des bras, on va pas l'envoyer à l'Everest, c'est signer son arrêt de mort, c'est une mission suicide. Mais une fois que tu as vécu ça, puis tu as traversé des sentiers semblables, est-ce que tu conçois vraiment ça comme impossible pour eux à accomplir? Ou si, en fait, avec toute l'expérience puis le bagage qu'on a, c'est tout à fait possible pour eux de passer à travers l'Everest, par exemple?
Ah, c'est certainement possible. C'est pas donné à tout le monde. Puis handicap ou pas, là, c'est un exploit. C'est quelque chose de très, très difficile. Mais c'est sûr que c'est possible des gens qui ont des handicaps ou qui sont complètement aveugles qui puissent faire ça. Ça l'a déjà été fait et puis ça va certainement être fait encore. Il y a des gens dans ces situations-là qui sont incroyablement plus qualifiés pour monter l'Everest que d'autres qui le montent là, ces jours-ci.
Oui, parce qu'effectivement, on entend souvent parler là, des gens qui se font faire des forfaits tout inclus jusqu'au sommet du Mont Everest. Là, c'est plus dangereux parce que là, ils payent, mais ils n'ont pas la préparation, ils n'ont pas la bonne mentalité puis les bonnes raisons de se rendre là-bas. Puis c'est là que ça peut mettre en danger leur vie puis la vie des autres.
Oui, c'est ça. Un peu des gens là, qui vont avoir l'attitude, l'expression en anglais, qui lancent de l'argent à la montagne jusqu'à ce que les guides les amènent jusqu'en haut. Ça, c'est honnêtement, puis c'est reconnu dans la communauté d'alpinistes que c'est le vrai danger. Des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expertise, qui vont essayer quelque chose qui ne s'y connaissent pas.
Je t'entends bien dire que le facteur principal, c'est la préparation. C'est de se rendre là pour les bonnes raisons, avec les bonnes motivations, puis d'y aller étape par étape, idéalement avec un bon guide qui est capable de donner des journées de repos au bon moment. Mais reste que concrètement, si on veut s'imaginer une personne aveugle là, qui réussit à monter une montagne aussi haute que l'Everest, ça va se passer comment pour elle sur le terrain? Est-ce que ça va être difficile de s'orienter quand on va devoir escalader un mur de glace? Est-ce qu'avec son guide, ça va bien se passer ou...
C'est sûr que ça rajoute des défis, ça, on peut pas le nier. Quand on monte une montagne comme ça, souvent les gens vont être encordés. Donc, on a un harnais, on a tout un équipement pour être attachés les uns aux autres. Donc, on est guidé par le guide, en fait,
ouais.
Puis par les autres gens qui font partie de l'expédition. Donc, c'est vraiment un effort de groupe. Puis, ça se ferait très bien là, pour quelqu'un qui a l'expérience, qui en a déjà fait. Puis c'est déjà un des prérequis hein, pour monter l'Everest. Il faut déjà, je crois que c'est un 6000 mètres. Il faut déjà avoir à son actif un 6000 mètres. Donc, quelqu'un qui a monté un 6000 mètres, même s'il est double amputé, s'il l'a fait...
Il a fait ses preuves.
Exactement.
Oui, c'est ça. Après ça, une fois que tu t'es qualifié, c'est sûr qu'il faut que tu te sois qualifié avec les mêmes... C'est sûr que si tu as un accident du jour au lendemain, tu te dis, moi, l'année passée, j'ai monté l'Everest, je peux le remonter. C'est peut-être pas le même bagage, mais parlons-en de tout le processus administratif, parce qu'il y a une préparation mentale, il y a une préparation physique, mais il y a aussi une préparation administrative. Puis toi-même, tu y as goûté. C'est pas n'importe qui veut se rendre à la montagne qui peut. Il faut passer à travers un processus bureaucratique.
Oui, il y a tout un processus, particulièrement le Népal. Là. C'est le Népal qui est probablement un des pays les plus complexes à ce niveau-là, parce qu'il se finance beaucoup avec ça. Donc, il y a plein de permis qu'il faut avoir pour des sommets, selon la hauteur du sommet. Ensuite, il faut avoir un guide qui va être obligatoire. Il y a les assurances du guide, il va avoir le salaire, il va avoir des permis pour les parcs nationaux, il va avoir les permis pour le sommet en tant que tel. Donc, C'est toutes des choses qui font énormément de sens, c'est certain, mais c'est un petit labyrinthe là, quand on arrive les premières fois.
Toi, tu as goûté là, ce fameux labyrynthe de processus-là parce que pour une technicalité, tu as failli pas réussir à pouvoir légalement monter Island Peak.
Oui, exactement. Moi, j'étais arrivé, par exemple, dans mon cas, c'était au mois de septembre, puis j'ai eu mon permis pour pouvoir aller le monter, puis j'ai commencé mon trek. Mais trois semaines plus tard, quand je suis arrivé au pied de la montagne, le gouvernement, ce nouveau gouvernement qui s'était fait élire, avait passé une nouvelle constitution et avait changé les lois effectives à partir du jour même. Donc, mon permis était plus valide. J'étais sur la montagne. Donc, vraiment, j'ai pu monter par la peau des dents, là, me faire un permis à distance. Mais
toi, si on te proposait de monter l'Everest, d'abord, là, je pense que tu serais content parce que c'est sûrement un de tes défis te connaissant un jour de gravir l'Everest. Là. Mais si on te demandait de le faire avec une personne qui ne voit pas ou encore une personne qui est amputée des jambes, est-ce que tu le ferais?
Moi, la première chose qui me vient en tête, là, qu'on me demande que ce soit un Canadien ou un Américain ou quelqu'un qui est amputé des jambes ou quoi que ce soit, c'est quoi qu'il y a sur le CV de cette personne-là?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a fait auparavant? Est-ce qu'elle est formée pour aller là? Est-ce qu'elle a assez d'expérience? Qu'elle soit amputée, qu'elle soit malvoyante, peu importe, ça pèse relativement peu dans la balance comparé à son expérience.
Donc toi, tu ne serais pas inquiet d'avoir une personne amputée si elle a déjà gravi d'autres montagnes par
pas
le
tout.
Passé?
Pas du tout. Non.
Puis c'est-tu un défi que tu aimerais te lancer un jour d'aller te rendre sur le sommet de l'Everest?
L'Everest, je sais pas. C'est une montagne qui coûte très, très, très cher.
Ouais.
Vraiment, pour tous les permis, là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars US. Là. Donc, ça coûte très cher, mais c'est sûr que ça peut être plaisant. Le plus haut du sommet du monde, là, c'est un exploit.
À mettre sur un CV.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. Puis en plus, parmi les critères, est-ce qu'il y a des examens médicaux qu'on doit passer pour s'assurer qu'on peut se rendre là ou...
Certainement que les agences en fait avec lesquelles les gens vont monter le Mont Everest vont s'assurer que les personnes sont dans des bonnes conditions.
Comme quelqu'un qui est cardiaque, physiques. Par exemple, est-ce qu'il pourrait?
Ce serait très difficile. Faudrait que la personne s'entraîne. Il y a plusieurs. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc je connais pas exactement c'est quoi les maladies ou les conditions qui peuvent nous empêcher catégoriquement de monter. Mais il faut que faut aller voir son médecin pour être certain.
En fait, ça revient à ça. C'est tout le propre parce que c'est tout le propre du processus bureaucratique. C'est qu'on uniformise, on standardise les acceptations puis les permis qui sont délivrés aux aventuriers qui veulent se rendre sur le Mont Everest. Mais si on ne met pas un certain standard, puis qu'on y va au cas par le cas, on va peut-être ouvrir la porte à quelqu'un qui est cardiaque ou encore quelqu'un qui est cancéreux. C'est là que ça devient difficile de juger de qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas, non?
Oui, ça devient difficile, effectivement, au cas par cas. En même temps, quand on fait une loi comme celle-là, ça peut discriminer certains cas parce que si elle n'est pas faite comme cette loi-là, de ce que je pense, elle cible pas bien les gens. Donc, peut-être que ça empêche certaines personnes qui ne devraient pas monter, mais ça discrimine contre un paquet de monde qui devrait avoir la chance.
Ça, c'est là le nœud du problème. En fait, tu le soulèves bien, c'est que ça discrimine pas bien. On devrait pas identifier les personnes qui sont acceptées ou refusées en fonction de leur corps, mais en fonction de leur expérience. Ce serait une bonne manière, selon toi, d'admettre des critères qui sont justes pour tout le monde?
Oui, selon moi, ce serait la bonne façon de faire.
Super. Ben, merci d'avoir emmené cet éclairage philosophique-là, Alexandre. Sur cette question épineuse, puis on va sûrement en reparler à l'émission. Ça m'a fait un grand plaisir. Avant qu'on se laisse, qu'est-ce qu'on te souhaite alors que tu vas repartir en voyage? Est-ce qu'il y a des pays que tu n'as toujours pas vus que tu veux mettre à ta liste prochaine, dans la liste de pays prochains à voir?
Probablement l'Asie centrale. Un coin un peu méconnu, puis ça serait très intéressant.
Pour des randonnées aussi?
Toujours.
Randonnées, ouais. Super. On rappelle ton site internet si jamais on veut suivre tes aventures. On va le mettre sur notre site internet visevoix.com, mais c'est poètesansfrontières.com. Poète au singulier, frontière au singulier?
Frontière au pluriel.
Frontière au pluriel.com. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci, Bilodeau. Kevin.
Ça me fait plaisir. Nous, on sera de retour dans un instant avec une lecture des résultats des derniers jours. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était Bruno Haché qui était avec nous en studio pour nous parler du tournoi invitation de goalball qui a eu lieu à Montréal du 26 au 28 janvier. Eh bien, j'ai les résultats. Donc, les 14 équipes nord-américaines prenaient part au tournoi. Il y avait 8 équipes hommes, 8 et 6 équipes femmes. Puis c'est l'une des plus grandes compétitions en Amérique du Nord de goalball, je vous le rappelle. Les grands honneurs de la compétition féminines sont allées à l'équipe Team USA, suivie par les All Blacks, une équipe de l'Ontario en deuxième position, et Turnstone Flyers, qui est aussi une équipe originaire des États-Unis, qui termine troisième. Du côté masculin, c'est l'Alberta qui a terminé sur la plus haute marche du podium. Goon Squad, j'aime beaucoup le nom, a terminé deuxième, et la Colombie-Britannique a terminé troisième. C'est donc dire que l'équipe masculine, qui était menée par Bruno Haché, mais aussi composée de Simon Tremblay, Josué Coudé, Tristan Lépine Lacroix et Rakiboul Karim, a terminé cinquième. Elle a remporté une victoire et subi trois défaites. Selon l'entraîneur en chef Nathalie Séguin, l'objectif de l'équipe était principalement d'offrir du temps de jeu aux joueurs moins expérimentés en vue de leur préparation pour les championnats canadiens. Elle dit: on a un bon mélange de vétérans et de recrues, alors on essaie également de bâtir notre équipe à long terme et assurer la relève en donnant du temps de jeu à nos recrues. L'Association sportive des aveugles du Québec, au test de cette compétition, tient à remercier l'engagement de tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cet événement une belle réussite. Basketball en fauteuil roulant. L'équipe junior du Québec de basketball en fauteuil roulant participait à un tournoi préparatoire en Colombie-Britannique lors du dernier week-end du mois de janvier. La formation québécoise a signé une fiche de 2 victoires et 2 défaites lors de cette compétition amicale. Nous avions 2 objectifs par rapport à ce tournoi. Le premier était d'évaluer notre compétition pour savoir quel est le niveau des équipes à l'Ouest canadien et ce à quoi nous devions nous attendre. Le deuxième objectif était de donner de l'expérience de jeu à nos athlètes qui sont en majorité inexpérimentés. Un seul joueur de l'équipe actuelle faisait partie de la formation l'année passée et a de l'expérience à ce niveau. Il s'agit de Benjamin Palmer. Les 11 autres joueurs en sont à leur première expérience au niveau junior, a expliqué Nicolas Palmer, qui est entraîneur de l'équipe. Donc, samedi, le Québec a gagné contre la Colombie-Britannique 49-42. Ils ont ensuite subi une défaite de 72-44 contre l'Alberta. Dimanche, le scénario a été similaire pour l'équipe junior du Québec, qui s'est encore une fois inclinée contre l'Alberta, cette fois dans un duel serré qui s'est terminé en prolongation 67-59. Le Québec a terminé son tournoi préparatoire sur une bonne note en remportant son deuxième affrontement de la fin de semaine contre les représentants britanno-colombiens par un pointage de 59-46. Le tournoi servait de préparation en vue des championnats canadiens qui vont avoir lieu à Longueuil, pas très loin d'ici, du 16 au 18 mars prochain. Évidemment qu'on va vous tenir au courant. Je remercie Parasport Québec pour les résultats. La soirée bénéfice et intronisation au Temple de la renommée de Parasport Québec du 14 mars prochain mettra à l'honneur deux personnalités importantes dans le monde du parasport. Dean Bergeron, athlète en para-athlétisme, est le premier. Après 12 ans de hockey qui l'a mené jusqu'à la LHJMQ, Dean Bergeron a vu son rêve s'écrouler à la suite d'un accident. Il ne s'est toutefois pas laissé abattre par cette épreuve qui a ensuite laissé place à une carrière de 20 ans en para-athlétisme. Après son accident, je vous le rappelle, c'est un combat qui a mal tourné lors d'un match de hockey. Il a d'abord eu une phase d'interrogation. Je me demandais sans cesse pourquoi moi, pourquoi est-ce que je dois être en fauteuil roulant? Grâce au soutien qu'il a eu de Sport Québec, de l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant et de son entraîneur Pierre Pomerleau et des différentes structures de sport paralympique, il a pu transformer les pourquoi et comment en maintenant. Et c'est ce qu'il lance aujourd'hui comme message aux différents athlètes. C'est ce dont je suis le plus fier de m'être accompli malgré les embûches, a-t-il dit. En terminant, je n'ai pas tous les résultats encore puisque le tournoi n'est pas terminé, mais il y a un tournoi de boccia qui avait lieu en fin de semaine dernière. Si vous rendez sur boccia.ca, le site de Boccia Canada, bien, vous allez pouvoir obtenir tous les résultats. Sinon, c'est partie remise. On va pouvoir vous les donner à la prochaine émission. Je ne connais pas encore avec certitude le prochain sujet dont on va parler à la prochaine émission. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une représentante de du Comité paralympique canadien qui va être en studio dans les prochains jours pour nous parler de la Coupe Parafort qui va avoir lieu du côté de Toronto afin d'amasser des fonds pour les athlètes qui pratiquent des sports en fauteuil roulant. Ça promet. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Mathieu à la régie, à Christiane aux communications et à notre invité de la journée, Alexandre Bilodeau des biens. Ici Kevin Breton, merci beaucoup d'avoir été là et gardez le sourire.